Bonjour à tous, vous allez bien? Merci Seigneur pour ces moments qu'il nous donne de partager. C'est bon de venir à la source. Merci Seigneur pour ces moments. Alors on va commencer. Donc vous savez que la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, nous avons une semaine de jeûne et prière. Et sur mon cœur, il y avait ce message qui est donc rappelé dans l'Apocalypse à l'église d'Éphèse. Qu'as-tu fait de ton premier amour ? Givorg, si tu peux mettre... Voilà. Et alors, bien sûr, on a tous une histoire. Et on peut oublier notre histoire. On peut oublier le moment où le Seigneur nous a rencontrés. Comment nous étions. D'où nous sommes venus. Et ce matin, je veux être comme cette petite main dans la main de mon papa. Et j'espère que vous aussi, vous aspirez à la même chose, à dépendre de lui, à ne pas oublier d'où vous venez, ce qui s'est passé dans votre vie avant, ce qui s'est passé depuis. Et ça me revient souvent, cette pensée, c'est me dire, Jean-Luc, d'où tu viens ? Parce que, bien sûr, je vois ma propre situation, je vois la situation de personnes que je peux rencontrer. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Et je me rappelais tout de suite que, donc, Éphèse, donc, qui est en Turquie, et bien avant notre conversion, nous étions tous les deux avec Annie en voyage, et sac à dos, et on était tous les deux, ça a vraiment été un voyage merveilleux. Et je me rappelle qu'à ce lieu d'Éphèse, ouais, je souffle trop dans le micro. C'est pas Irma, mais ça peut décoiffer. Voilà. Et donc, à Éphèse, me venait la pensée que c'était, bien sûr, une église dont il était question dans la Bible. Et nous n'étions pas chrétiens, Bien sûr, nous avons grandi dans une, tous les deux dans des familles catholiques. Donc forcément, nous avions entendu des choses. Et je disais, il y a encore quelques années, mais moi, je ne cherchais pas Dieu. Et je sais que j'avais étonné mes frères, notamment mon frère Corneille, et sûrement Robert, parce que c'est impossible de ne pas chercher Dieu. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. Mais je pense que dans mon orgueil, je me refusais à dire que je cherchais Dieu. Et pourtant, il y a eu d'autres circonstances que le Seigneur m'a rappelées en me disant, mais là, tu me cherchais. Et béni soit le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies d'hommes orgueilleux, perdus en eux-mêmes. Et voilà, il est venu à notre rencontre. Et vraiment, tous les jours de ma vie, tous les jours de notre vie, je voudrais qu'on garde cette authenticité de cette première rencontre, cette fraîcheur, cet amour qui fait tout dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église. Amen. Donc j'ai la zapette. Non, c'est ici. Là-bas, qui je vise ? Givor. Touché. Donc, on va lire donc dans l'Apocalypse. Apocalypse 2, donc les reproches que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse par la bouche de Jean. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais, le fameux mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïdes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église, aux Églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et donc cette église d'Éphèse, quand on lit, on est toujours à Apocalypse 2.1. Cette église, quand on lit, si on ne fait pas attention à ce mais, on se dit ben finalement, c'est pas mal, ça a l'air de fonctionner. C'est une église qui a l'air de se tenir ferme dans la vérité, qui s'est opposée à des faux apôtres. Et le Seigneur dit, mince, j'ai perdu ma ligne. Oui, donc ce n'est pas des reproches sur sa doctrine, sur son travail, sur la taille de l'Église. Est-ce que le ménage est bien fait? Est-ce que la louange est bonne? Non, c'est autre chose. Le Seigneur va toucher aux profondeurs, à la source même. Qu'as-tu fait de mon amour? J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et bien sûr, ce message, vous avez pu l'entendre plusieurs fois. Mais les hommes sont des hommes oublieux. Et souvent, on continue notre marche et on pense que avec nos forces, on va y arriver. Je me souviens avoir fréquenté un groupe à un moment donné, c'était pas le mien, c'est des gens qui... On se réunissait puis qui rapportait ça. Et qui constataient un déclin dans leur groupe. Quoi. Et le Seigneur leur disait, au début, tu ne savais pas comment faire. Que dire? Tu ne savais pas comment faire. Alors tu venais me voir. Tu te confiais en moi. Et maintenant, tu crois savoir comment faire. Alors tu ne viens plus me voir. Alors ce groupe périclitait. Et donc l'église d'Éphèse, elle a grandi dans un contexte particulier, bon, qui peut expliquer hein, ça, son affrontement à ceux qui étaient contre la vérité, puisque à Éphèse, et on retrouve ça dans Acte 1, ok, c'est Givor qui commande à partir de maintenant. On va reprendre les vieilles habitudes, ce qui n'est pas forcément bon, mais puisque ça ne marche pas, on va fonctionner comme ça. Donc, acte 19, verset 1. Et on voit l'histoire des débuts de cette église d'Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement. Pendant 3 mois, il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Amen. Ça, c'est la première église, l'église du premier amour, fraîche, qui est sous l'onction du Saint-Esprit, qui est conduite par le Saint-Esprit. Et on voit des miracles malgré l'opposition. Parce que l'opposition, il y en avait. Hein. Au verset 24, toujours de ce chapitre 19, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans un profit considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Vous tous, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une assez grande foule en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de son prestige celle qui a toute l'Asie, à qui toute l'Asie et le monde entier rendent un culte. C'était pas rien. À ces paroles, remplis de fureur, ils se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Donc il y avait une grande opposition spirituelle. Et vraiment, ces chrétiens, ils sont arrivés, un tout petit nombre, et dérangés vraiment ce qui était en place, des fausses croyances qui étaient répandues sur le monde entier. Et il y a une grande opposition, c'est sûr que quand il y a une grande opposition, le danger, c'est de s'endurcir. Et donc, elle était vraiment attachée à la vérité, parce que dans ces cas-là, un pied à côté, c'est dangereux. Mais elle était devenue orthodoxe, très orthodoxe et dure. Et donc, voilà l'histoire d'Éphèse, et peut-être pourquoi elle s'était à ce point recroquevillée sur elle, avait fait ses fortifications, et finalement se retrouvait enfermée avec un cœur non plus ouvert et facile, qui allait vers le Seigneur, mais il s'était protégé dans l'adversité. De la même façon, il y a eu un reproche à l'église aux Galates, qui, là, de la part de Paul, qui avait vécu quelque chose un petit peu de la même façon, et qui disait donc au chapitre 3, « Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? » Il reste ce conflit dans nos cœurs. Ce qui est spirituel qui vient de Dieu et ce qui est charnel qui n'est pas mort. Et le conflit est là. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés de cette façon-là en nous laissant à nous-mêmes nous débrouiller avec ce conflit. Il a mis en nous une conscience qui est éclairée par le Saint-Esprit et qui revient régulièrement enlever la poussière. Où est ton premier amour? Waouh! Le premier amour, alléluia, qui doit rester frais. Et donc, diapo suivante, ça marche. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a vraiment des ornières impossibles là pour un vététiste qui est dans un bois avec des ornières dans lequel il est un petit peu pris. En fait, notre vie peut être ça. C'est-à-dire que notre vie passée, on a tracé des ornières profondes. On passait toujours par le même endroit et ça creusait et c'était boueux. Et quand on veut utiliser un autre moyen de transport, on se retrouve un petit peu empêtré et puis coincé, quoi. Et notre vie peut ressembler à ça. Alors pourquoi ce reproche ? Je continue sur ce premier amour. L'amour est l'essence du christianisme. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. L'amour est l'essence du christianisme. C'est son carburant. C'est le carburant du royaume de Dieu. C'est avec ça qu'on avance. C'est avec ça que le Seigneur veut que son Église avance. C'est avec l'amour. Et donc forcément, quand l'amour n'y est plus, ou n'y est pas suffisamment, quand le réservoir d'essence est à sec, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben finalement, on ne va plus avancer dans les voies du Seigneur. Et on pourrait même dire que l'amour est plus que l'essence, il est aussi le moteur qui nous fait avancer dans le royaume de Dieu. J'ai repris quelque chose que je vous avais présenté. Bon, j'ai dû faire en deux diapos parce que jusqu'au deuxième rang, ils voient. Après, vous allez écouter. Même pas, mince. Ça, c'est pour vous forcer à écouter un petit peu. Et donc, c'est une paraphrase de 1 Corinthiens 13 par Dick Dickinson. Parce que Dieu m'aime, il est lent à perdre patience envers moi. Parce que Dieu m'aime, il prend les circonstances de ma vie et les utilise de façon constructive pour m'aider à grandir. Parce que Dieu m'aime, il ne me traite pas comme un objet à posséder ou à manipuler. Parce que Dieu m'aime, il ne ressent pas le besoin de m'impressionner par sa grandeur et sa puissance, ni de me diminuer pour me prouver qu'il est grand. Parce que Dieu m'aime, il est avec moi. Il veut me voir grandir dans son amour. Parce que Dieu m'aime, il ne se met pas en colère à cause des erreurs que je fais, lesquelles sont nombreuses. Parce que Dieu m'aime, il ne tient pas un registre de tous mes péchés pour me les lancer par la tête à la première occasion. Parce que Dieu m'aime, il est profondément blessé quand je ne marche pas dans ses voies. Il voit cela comme une évidence que je ne lui fais pas confiance et que je ne l'aime pas. Parce que Dieu m'aime, il se réjouit lorsque j'ai fait l'expérience de sa puissance et de sa force et que je reste ferme devant les pressions de la vie. Parce que Dieu m'aime, il travaille patiemment avec moi, même quand je veux tout abandonner et que je ne comprends pas pourquoi, lui, il ne m'abandonne pas. Parce que Dieu m'aime, il continue à me faire confiance dans des moments où je ne me fais plus confiance moi-même. Parce que Dieu m'aime, il ne dit jamais qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Il travaille plutôt patiemment avec moi et parfois me discipline de telle manière qu'il est difficile pour moi de comprendre la profondeur de son amour. Parce que Dieu m'aime, il est avec moi quand j'ai atteint l'abîme du désespoir. Quand je me vois tel que je suis et me compare à sa droiture, sa sainteté, sa beauté et son amour. C'est dans des moments comme cela que je peux vraiment croire que Dieu m'aime. Oui, le plus grand de tous les dons, c'est l'amour parfait de Dieu. Amen. Donc le reproche, c'est finalement, tu as perdu le premier commandement, mais aussi le deuxième. Matthieu 22, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la parole dépend de cette loi. Amen. Donc, ce n'était pas un reproche à la légère que l'Église d'Éphèse a pu entendre et que je peux entendre et que vous pouvez entendre. Tu t'es écarté de la première vérité de notre première rencontre. Rappelez-vous cette première rencontre avec le Seigneur. Rappelez-vous cette première rencontre. Le jour où votre vie a changé. Tu as oublié que je t'aime. Et pourtant, cet amour avait rempli ton cœur. Comment t'es-tu laissé reprendre? L'amour est de Dieu. L'amour est spirituel. Il n'est pas qu'émotionnel. Il est spirituel. 1 Jean 4,7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous avons été créés dans une relation d'amour et pour une relation d'amour. Au verset 9, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers vous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous avons connu Dieu par son amour et grâce à son amour. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Amen. Alors, si nos réservoirs sont à sec, si nos batteries sont déchargées, c'est encore la suivante, eh bien, on n'a pas le bon équipement. Donc ça, c'est comme quelqu'un qui veut faire la cuisine et qui n'a pas pris les bons outils. Et dans le royaume de Dieu, les bons outils, c'est Dieu qui nous les donne. Bien sûr, il utilise nos qualités qu'il a mis en nous, qui sont complémentaires dans l'Église. Mais il y a des choses dont il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de notre chair pour se mettre au travail. Bon, je ne suis pas expert en cuisine, hein, mais je sais que ces outils-là ne servent pas. Enfin, si, peut-être pour couper les carottes. Je ne sais pas, faire de la purée, mais bon. Ça, c'est limite, quoi. Mais on peut être en panne, hein, notre réservoir peut être en panne. Vous êtes rendu compte quelquefois que vous étiez à sec? Ça arrive. Et on est de chair, on peut avoir notre réservoir à sec. Ça, c'est certain. Et on peut avoir vraiment... à ce moment-là, crier à Dieu, « Seigneur, viens me remplir. » Revenir auprès de Dieu, auprès du Seigneur, « Seigneur, je veux me serrer dans tes bras. J'ai plus ce qu'il faut pour travailler dans ton royaume. » Et ça, c'est arrivé, et ça continue d'arriver. Et gloire à Dieu, parce qu'il ouvre nos yeux à ce moment-là. Mais on ne veut pas s'endurcir. Si on n'a pas les bons outils, on n'a pas les bons outils. La première rencontre avec le Seigneur était forcément basée sur l'amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan du salut a été réalisé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Cette mort à la croix, cette résurrection triomphant de la mort, le sang de Jésus témoigne éternellement que le plan du salut est à la fois parfaite et définitive. Le plan d'amour de Dieu pour l'humanité est attesté par le sang qui est au ciel, qui est éternel. Amen. Et le Seigneur a déposé ces choses-là dans nos cœurs et continue de les déposer et continue bien sûr de nous enseigner avec cette révélation de l'Esprit-Saint qui va venir toucher spécifiquement nos cœurs là où nous en avons besoin. Et le Seigneur veut faire les mêmes œuvres dans notre cœur qu'il fait au ciel. Il n'y a pas de limite pour lui, sinon les nôtres. Le Seigneur n'est pas lointain comme lorsque nous étions sans lui. Et ce n'est pas une puissance extérieure qui doit venir. Mais c'est une intervention à l'intérieur de notre cœur. C'est à l'intérieur de notre cœur que se fait cette opération. Et d'un cœur changé, c'est l'extérieur qui va être changé. Une relation consiste à partager sa vie entre une ou plusieurs personnes. Mais chacun doit y contribuer. Et le meilleur exemple, bien sûr, c'est celui du mariage. C'est aussi le mariage qui illustre la relation entre Christ et son Église. Et la relation du mariage va devenir une relation d'intimité profonde si chacun se livre pleinement. Se livre pleinement. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Dans la confiance. Sans trouble. Parce qu'on arrive chacun dans un mariage, l'un et l'autre, avec des vieilles casseroles. Et les vieilles casseroles vont s'emmêler et ça peut produire du trouble. Le Seigneur est venu pour nous délivrer de notre passé, de ces vieux troubles. Et dans la relation, lui, le Seigneur, son œuvre est parfaite. Et ce qu'il dépose dans notre cœur, c'est aussi quelque chose de parfait. Ne résistons pas à lui pour qu'il continue de changer notre cœur afin que nous puissions nous livrer totalement à lui. L'amour est exigeant, vous le savez, très exigeant, surtout pour les maris. En tout cas, quand je lis Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez chacun votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ça reste difficile. Il reste toujours du chemin à faire. Et rien ne peut se faire, bien sûr, dans un couple sans l'amour. Et dans l'Église, dans le royaume de Dieu, rien ne peut se faire sans amour. Sans ça, on va travailler en vain. On va se fatiguer en vain. Et même, on peut travailler pour quelqu'un d'autre. C'est ça le plus triste. Satan, le menteur et le père du mensonge, veut ravir la vérité première, le premier amour qui a été déposé dans notre cœur. Il vient remuer notre passé. Il vient remuer notre connaissance de nous-mêmes, l'amour qu'on a dans notre cœur, que le Seigneur a déposé, il met une couche de poussière, il met un trouble là-dedans et on se met à douter de cet amour. Mais le Seigneur a déposé en nous une acceptation totale et inconditionnelle. Une acceptation totale et inconditionnelle. Je t'aime, voilà tout. Et donc nous, on peut rajouter notre mais. Oui, mais je t'aime inconditionnellement. Amen. Alors ne dis plus, je n'en suis pas digne. Qui es-tu pour t'opposer à Dieu ? Qui es-tu pour t'opposer à Dieu ? Ce que Dieu a dit est la vérité. Dans l'acceptation inconditionnelle de Dieu, nous avons besoin de nous connaître à travers le regard de Dieu. Non pas le nôtre. Et de nous accepter tels que nous sommes. connaître et accepter ce Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour, de grâce, de justice, qui est lent à la colère. Alors, est-ce que Dieu a dit que tu étais nul pour ne pas t'aimer? Mais est-ce que tu sais que Dieu résiste aux orgueilleux? Pourquoi contredire le Seigneur? Pourquoi contredire le Seigneur? Puisque Dieu t'a accepté et désiré. Et que ce premier jour, ce premier amour, il a déposé un trésor, un feu. Nous voulons ranimer cette flamme et nous ne voulons pas faire Dieu menteur. Amen. Mais pour ce sujet, comme pour d'autres, finalement, avec qui allons-nous nous accorder? Le Seigneur Jésus, pour qui nous sommes totalement acceptés et aimés inconditionnellement, ou Satan qui continue de me mentir sur ma nature d'enfant de Dieu? Le danger, c'est qu'on se place sous une mauvaise autorité. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient reçu puissance et autorité. Le diable, quand il a chuté, a perdu son autorité. Ce qu'il a fait, il s'est dit « Comment je vais reprendre l'autorité ?» Il a vu que Adam et Ève avaient reçu cette autorité. Par le mensonge, il est venu reprendre, par la ruse, reprendre cette autorité. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, Jésus sur la croix a repris l'autorité pour nous la donner. Mais mes amis, nous avons l'autorité de Jésus si nous croyons dans ce qu'il nous dit et pas dans les mensonges de l'ennemi. Le premier amour doit rester le premier amour. Amen. Cette fraîcheur, cette authenticité, si on ne l'a plus, il y a de la glace qui se met dans notre vie. Et on commence à être paralysé. On a besoin de cette braise du premier amour. Soufflons sur cette braise. Le Seigneur souffle avec nous sur cette braise. Amen. Alors nous allons restaurer la relation. À un autre endroit, toujours dans l'Apocalypse, Apocalypse 3,15, le Seigneur dit « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Il y a de l'indifférence dans notre relation. On a perdu notre joie, notre spontanéité. D'être vrai dans cette relation. On a donc un problème. On s'est fait voler. Et ce qui détruit la relation, on n'a pas toujours besoin du diable. Hein. C'est l'indépendance. Je vais faire à mon idée. Je ferai comme j'ai prévu. Ça a été le plan d'Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, qui se reproduit dans nos vies. Le Seigneur nous a laissé le pouvoir de décider. Mais il a mis aussi en nous son intelligence. La compréhension de sa parole, l'Esprit Saint, vient éclairer en nous sa parole, lui donner vie, ce qu'on ne comprenait pas avec nos yeux, notre intelligence. Dans la parole, on le comprend maintenant, parce que l'Esprit Saint travaille avec nous pour nous ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas seuls. Et je vous ai mis une citation de Muret qui dit « Le péché dans son essence consiste en ce que l'homme s'est détourné de Dieu pour se tourner vers lui-même. Il a rejeté Dieu pour chercher sa propre satisfaction. Rien de nouveau sous le soleil, je peux vous le dire. Et malgré nos années de route, etc., etc., je peux vous dire, je viens de passer une année qui a été vraiment très spéciale, parce qu'on croit que, en fait, on a tout réglé quand j'ai perdu mon travail. C'est vrai que ça a été paisible. J'ai pu pardonner très vite. Il n'y avait aucune amertume. Le problème qui restait, ce n'était pas chez les autres. C'était chez moi. Il y a quelque chose en moi, alors là, ça ne lui faisait vraiment pas plaisir. C'était la chair. Et ces choses-là revenaient en permanence, je ne comprenais pas. Et puis petit à petit, mes yeux se sont ouverts. J'avais une position dans ce travail. Il y avait forcément, on a un statut, et puis d'un coup, roup, je suis de libre. Et on ne comprend pas tout ça, parce que bon, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas l'explication, seulement je sais que c'était en moi, c'était la chair, et que c'était de l'orgueil qui avait besoin d'être nettoyé. Alléluia! Alors, quand on n'a pas compris une leçon, nous avons un professeur qui ne lâche pas ses élèves. Il veut le meilleur pour eux. Amen. Alléluia. Et donc, il a fini par nettoyer cette affaire-là. J'avais beau me dire, ah oui, c'est bien que ce soit arrivé à ce moment-là parce que j'en pouvais plus. J'ai beau me dire un tas de choses. Ah, mais la chair, elle n'était pas d'accord avec mon fort intérieur, mon cœur. Jésus a soumis entièrement sa volonté. Parfaitement sa chair. Il a été un homme comme nous. Et donc, en soumettant sa volonté parfaitement, le plan du salut a été parfait. Donc cette rédemption a été parfaite, il n'y a rien à rajouter, je vous ai dit, si vous ne le saviez pas. Il nous donne une nouvelle capacité. C'est une capacité joyeuse à nous mettre dans son obéissance. Amen. Et à comprendre sa volonté et nous mettre en marche dans la même volonté. Et donc bien sûr, le chemin qu'a pris Jésus, c'est le même pour nous. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et donc cette relation, cette nouvelle relation de confiance qui est établie entre le Seigneur et nous, qui va nous amener dans cette relation de dépendance, d'interdépendance. Là, la relation est rétablie. Et ensuite, ce qui est nécessaire pour une bonne relation. Il y a la compréhension, se comprendre. Parler la même langue. Parler la même langue. C'est la diapo suivante, Givorg. Parler la même langue, savoir s'écouter. Savoir s'écouter. Dans nos lectures spirituelles, dans nos entretiens. Et il y a déjà dans une conversation, quand on est avec quelqu'un, on a une oreille pour cette personne et on a une oreille pour le Saint-Esprit. Et à travers nos lectures, c'est aussi la même chose, il y a une oreille pour notre compréhension, une oreille pour le Saint-Esprit. Réclamons l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit dans nos lectures, dans nos rendez-vous divins. Mais bon, les rendez-vous divins, comme c'est le Seigneur souvent qui a fixé le rendez-vous, il a bien préparé les choses. Et donc, parce qu'il y a toujours convergence, concordance, quand on lit la parole, entre ce qu'on lit et ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Ce qui est nécessaire aussi, c'est l'honneur et le respect que nous devons à Dieu, mais aussi à tout homme. C'est de marcher dans la crainte de Dieu de plus en plus. Connaître Dieu de plus en plus nous amène dans cette sainte crainte, dans cette révérence. Imaginez-vous que cette semaine, M. Macron veut vous recevoir. À mon avis, vous allez être à l'heure. Vous allez tout faire pour que ce rendez-vous se passe bien. Que vous ayez voté pour lui ou pas, c'est quand même le président. Donc on s'imagine que tous les jours, il y a plus que M. Macron qui veut nous rencontrer. Beaucoup plus qu'un homme élevé, avec des grandes capacités. Il y a Dieu qui est tout-puissant. Il y a notre Papa céleste qui attend notre petite main pour nous emmener dans un cœur à cœur nouveau. Amen. Alors la confiance, bien sûr, la confiance qui va être restaurée par ces rendez-vous, mais souvent elle a été ébranlée par bien des espoirs déçus, voire des trahisons. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et sa parole, vous le savez, ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. C'est une parole vivante, efficace. Et sur sa parole, nous voulons aller. Rappelez-vous des premières paroles d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir où il allait. En pleine confiance. Et la grâce est à notre disposition. Robert nous a donné une citation de Luther la semaine dernière, qui nous dit que la grâce est à notre disposition et par la foi nous saisissons cette grâce. Bien sûr, l'amour, j'y reviens, est toujours l'amour. Nous le recevons dans notre esprit, mais pas dans notre âme. Ensuite dans notre âme. Et c'est dans notre esprit que nous le recevons. L'amour est spirituel. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec des émotions humaines. Nous le recevons par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et donc ça change les choses, parce que Dieu a mis les choses dans l'ordre de notre esprit. Cet amour va produire des fruits dans notre âme, aussi dans notre corps. Et la différence, c'est que dans des situations compliquées, je peux vous dire que quand vous savez que l'amour de Dieu est dans votre cœur, alors là, les choses sont vraiment apaisées. Les choses sont préparées d'une autre façon. Et ce n'est plus avec nos capacités émotionnelles que nous allons aller, mais c'est avec l'amour divin, surnaturel de Dieu, que nous pouvons aller. Et l'amour est aussi une décision et un choix. Personne n'est forcé. Personne n'est forcé. Mais quand nous nous rappelons les premiers jours, combien de temps le premier amour dans son ardeur a duré avec le Seigneur, quand nous rappelons ces premiers moments, alors nous savons c'est ça que nous voulons, et c'est pas autre chose. Amen. Je termine par Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Parce que le verset 35 nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » vous êtes faits de la même nature. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Voilà. Sur un sujet que vous aviez peut-être déjà entendu, j'ai voulu vous introduire dans cette réflexion, parce qu'elle est la base de tout. Donc chacun où vous êtes, chacun dans votre vie, on va faire le point à tous, les uns les autres. On va se laisser guider par un chant que nos amis de la louange vont prendre. Et puis, on va se laisser guider. Demander au Seigneur de revenir, de remettre en nous ce premier amour. Et de ne plus le lâcher. Amen.